VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Oui, bonsoir à tous. Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de mineurs artisanaux sont portés disparus depuis jeudi nuit dans l'éboulement d'une mine d'or à Kabonga, dans l'est du pays. Selon des informations de VOA Afrique, les secours sont difficiles car la mine, qui était interdite d'accès par les autorités, était occupée et exploitée par des groupes djihadistes depuis des mois. Ce dimanche, l'armée burkinabé a effectué un vol de reconnaissance de la zone. Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont lancé une importante attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays. Tuant un soldat, ont annoncé dimanche des responsables militaires. L'attaque contre le bataillon 145 à Gachigar, dans l'état de Borno, a commencé samedi et a continué tôt ce matin, a précisé le porte-parole de l'armée de l'air, Ibinkoule Daramola. La mission de l'ONU au Mali a été la cible de deux attaques samedi, dont la première de grande envergure a fait 2 morts et 5 blessés dans le nord au sein du contingent burkinabé, tandis que la seconde, quelques heures plus tard, dans le centre, a fait 3 blessés parmi les soldats de la paix togolais. Au Cameroun, la cinquantaine de militants de l'opposition arrêtés hier matin à Douala, en marge d'une marche non autorisée contre les résultats de la présidentielle du 7 octobre, ont été libérés dans la soirée de samedi. Mais plusieurs autres ont été arrêtés dimanche, cette fois-ci à Yaoundé, selon leur parti, le MRC. En RCA, l'ex-président de l'Assemblée nationale destitué ce vendredi, Karim Mekasoa, appelle au calme et qualifie sa destitution de, je cite, coup de force contre la Constitution. Dans un discours prononcé dans le quartier PK5 de Bangui, qui abrite la majorité des musulmans de la capitale, il a exhorté donc ses partisans au calme. Dans la foulée de sa destitution vendredi, des tirs épars avaient été entendus au PK5 de Bangui vendredi et dans des villes du centre et de l'est, notamment Bambari et Bria. En Mauritanie, le parti islamiste Tewassul, le principal parti d'opposition, a remporté samedi l'élection pour la mairie d'Arafat. L'Arafat, c'est son fief principal dans la capitale Nouakchott. C'est ce qu'on a appris ce dimanche de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et ici aux États-Unis, les 11 personnes abattues hier dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie ont été identifiées et leurs familles prévenues. C'est ce qu'on a appris des autorités américaines. Parmi les victimes âgées de 54 à 97 ans figurent un couple et deux frères, a précisé Carl Williams, le chef de l'équipe médicale, lors d'une conférence de presse. Les tireurs en question, identifiés par les autorités comme étant Robert Bauer, a fait irruption samedi matin dans la synagogue Tree of Life, arbre de vie, comme on dit, et crié, je cite, « Tous les Juifs doivent mourir », fin de citation. Et selon des médias, avant de tirer sur les fidèles réunis en ce jour du Shabbat, le repos hebdomadaire juif, pour une cérémonie marquant la naissance d'un enfant. Les Brésiliens ont commencé à voter depuis ce matin pour une présidentielle qui peut faire basculer la première puissance d'Amérique latine sous un régime d'extrême droite si le favori, Jair Bolsonaro, l'emporte sur son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Lors du scrutin du 7 octobre, Bolsonaro a failli l'emporter dès le premier tour avec 46% des suffrages alors qu'il avait été longtemps sous-estimé. Aujourd'hui, donc, 147 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. On termine par du sport. En football, 2 classicos ce dimanche. En Espagne, le Barça a écrasé le Real Madrid 5-1 avec un triplé de Luis Suarez. En France, le Paris Saint-Germain est aux prises en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Et en athlétisme, le Kenyan Abraham Kiptum a battu dimanche le record du monde du demi-marathon en s'imposant sur le parcours de Valence, c'est en Espagne, en 58 minutes et 18 secondes. Kiptum détrône ainsi l'Érythréen Jersenay Tadese qui avait réussi 58 minutes et 23 secondes à Lisbonne en mars 2010. C'est tout pour ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Eric Manilakiza avec vous, bienvenue dans ce dialogue des religions sur la voie de l'Amérique. Ce soir, le parler en langue. Le parler en langue est une manière de prier assez répandue dans les églises dites réveillées. Lors d'une prière intense et exaltée, certains adeptes ou pasteurs parlent subitement dans une langue incompréhensible qui ne correspond en théorie à aucune langue connue. Pour les adeptes, il s'agit d'un don de l'Esprit-Saint qui permet aux hommes de prier d'une façon audible, seulement par Dieu lui-même. Croyez-vous au parler en langue? Comment vous percevez ce phénomène? Existe-t-il chez les musulmans ou les catholiques? Voilà le sujet qui nous retient ce soir dans ce dialogue des religions. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Hassan, c'est Benoît qui est déjà en ligne. Benoît, bonsoir.
Bonsoir, Véronique, et bonsoir aux auditeurs de la radio du monde.
Je vous écoute.
Oui, en parlant langue, comme vous venez de le dire, c'est une histoire utopique pour nous. Parce que nous avons dit que ça revient de des tableaux spirituels que les pasteurs, avec leur clic, arrivent à faire des histoires comme ça pour attirer les adeptes à s'adhérer massivement dans l'équipe, afin d'avoir beaucoup de l'argent qu'on appelle celui-ci Mabunza, c'est-à-dire des offrandes. Et juste quand une église entre des talons en langue, vous verrez que cette église sera inondée par la population. Pourquoi ils sont en train de suivre ce que le pasteur est en train de dire? C'est tout comme chez nous ici, il y a des églises où vous suivrez quelqu'un qui commence à parler de Arababababa et Kondo Shoren, l'histoire qui n'est pas connue. Et même si on parcourait le monde entier, on ne trouvera pas cette langue. Or, nous connaissons bien la Bible. Le temps où le Saint-Esprit est tombé sur
les apôtres,
les disciples de Jésus-Christ. Donc, les apôtres de Jésus, quand c'était juste dans les temps de Pentecôte, ils parlaient en langue, ce n'était pas des langues comme des Chekondrababa. Il y avait quand même quelques-uns qui écoutaient ce que les autres parlaient. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est digne, l'Esprit Saint est ordonné. L'Esprit Saint ne peut pas venir en désordre et commencer à faire parler les gens de Chekondrababa. C'est juste une manière d'attirer les adeptes à s'adhérer massivement dans leur guide, afin que ils arrivent à profiter de ce qu'ils ont besoin comme des fric, c'est-à-dire de l'argent. Mais pourquoi pas se faire écuser? Là, on parle de réveil. À l'église catholique, ça n'existe pas. Même chez les musulmans, ça n'existe pas. Vous trouverez que ce sont des choses que les gens ont commencé à les faire, comme la Bible dit. Au dernier jour, vous verrez beaucoup de faux prophètes qui viendront à mon nom. Mais ne les croyez pas. Pourquoi? Parce qu'ils seront là pour vous trébucher, afin que vous puissiez tomber dans des misères, afin que vous puissiez être hors la Bible, hors la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole, vraiment. C'est ce que nous devons condamner. Et nous demanderons à des pasteurs là de bien parler ce que c'est leur mission, et non de crier ce qui est en dehors de la Bible. Ce sont pas ce que nous sommes en train de condamner chez nous. Si à RDC, vous trouvez que ça devient partout là de parler en langue. Et dans des églises où on dit de parler en langue, où l'Esprit Saint là tombe dans cette église, vous trouverez qu'il y a des multitudes de gens. Mais là où il n'y a pas de parole en langue, vous trouverez qu'il y a des églises. D'abord, l'église en lambeaux, des églises en paille, des églises en chaume. Mais là où il y a des paroles en langue, vous trouverez qu'il y a des gens. Or, l'Esprit Saint n'habite pas dans des gens-là.
Benoît, merci de votre contribution. Oui. Merci de votre contribution et bonne soirée chez vous à Kinshasa. Nous avons le père François Darmine. Bonsoir mon père.
Bonsoir à vous, bonsoir. Moi-même je vous parle de l'Italie. Et donc on me demandait si la glossolalie était admise dans les églises et dans l'église catholique. En réalité, la glossolalie est un phénomène qu'on retrouve dans la Bible, donc qui ne peut absolument pas être contesté de quelque façon que ce soit par l'Église. C'est un phénomène qui est admis, qui en réalité maintenant n'existe plus que dans les réunions du renouveau charismatique, ou comme on dit en italien, le renouveau dans l'esprit. C'est-à-dire que Saint-Paul en parle d'ailleurs. Saint-Paul admet ce genre de manifestation de prière, mais il insiste beaucoup sur le fait aussi que, au fond, mieux vaut parler de façon compréhensible plutôt que de prier ou chanter avec des paroles qu'on ne comprend pas. De toute façon, la glossolalie indique justement le phénomène qui consiste à parler en d'autres langues. Plus précisément, par glossolalie, on entend le fait de prononcer ce qui peut être ou une langue existante mais inconnue de celui
qui parle,
c'est ce qu'on appelle la xénoglossie, ou bien ce sont des paroles d'un langage mystique inconnu. Je crois que Saint Augustin, quand il parle de la glossolalie, il en parle plutôt dans ce second sens, en ce sens que il dit que c'est une forme de prière, une forme de langage mystique qui est chanté dans une langue qui est inconnue et qui n'existe pas nécessairement, et en quelque part, et qui n'appartient pas à l'Antiquité, qui n'appartient pas à la période actuelle, mais enfin, c'est quand même une langue, mais une langue inconnue, qui est chantée, qui est fredonnée par la personne qui prie. Donc, c'est un phénomène que l'Église a toujours admis. Saint Augustin lui-même, qui était une personne très, bien sûr, rationnelle aussi, rigoureuse, l'admet très bien, et dit que c'est une forme de prière qui est admise et qui reflète l'état d'esprit d'une personne qui entend prier sans respect humain, en réalité, donc sans avoir peur de provoquer une mauvaise impression auprès des personnes qui prient avec elle.
Mon père, le précédent auditeur, disait que beaucoup d'églises utilisent cette stratégie pour attirer les fidèles et se faire de l'argent. Jésus a prédit le parler en langue en disant « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui s'appuient sur ce que Jésus a prédit, mais qui ne reflète pas réellement ce don spirituel?
Je ne sais pas si Jésus faisait allusion à ce phénomène de la glossolalie, mais il disait que des personnes auraient eu la possibilité de parler des langues inconnues. Je crois qu'il faisait peut-être allusion aux futurs missionnaires qui de l'église naissante, qui ont été envoyés dans tous les coins du monde, aux Indes, même en Chine, et puis qui ont pu se faire comprendre. De là à dire qu'il s'agit d'un phénomène qui est permis ou même suscité de façon à attirer des gens et faire de l'argent, je crois que c'est quand même une interprétation qui a très peu de fondement, parce qu'en réalité, il y a des personnes qui sont plutôt rebutées par ce genre de phénomène et qui disent « c'est un phénomène de personnes exaltées, on ne veut rien avoir à faire avec des gens comme ceux-là, on préfère prier normalement » et donc qui refusent même de participer à des réunions du renouveau charismatique retenu par l'Église. Donc, de là à dire que c'est un phénomène qui, en soi, attire les gens, je ne crois pas que ce soit vrai, parce qu'en réalité, ça peut, comme je vous le disais tout de suite, il y a un instant, ça peut être des gens aussi, beaucoup de personnes peuvent être rebutées par ce genre de prière.
Paul a écrit au sujet du parler en langue. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 12 et 14. Il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. »
Oui, c'est ça justement. Donc, en réalité, il ne s'agit pas de transmettre aux hommes un enseignement, parce qu'on parle une langue qui est justement inconnue, une langue que personne n'est en mesure de comprendre. Donc, c'est une forme de prière, et la prière s'adresse à Dieu. ne s'adresse pas aux personnes qui sont avec nous en réalité, elle s'adresse à Dieu. Et il faut en tenir compte en réalité.
Certains disent même que si on ne parle pas en langue, on n'est pas encore réellement chrétien.
Non, ça c'est faux, vraiment c'est faux. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de saints canonisés par l'Église qui ont mené une vie tout à fait exemplaire et qui n'ont jamais parlé en langue. On n'a jamais eu de témoignage en ce sens-là. Il ne faut quand même pas être unilatéral dans l'interprétation de ce phénomène. Je peux comprendre, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui aient une prédilection à l'égard de ce phénomène, de ce genre de prière, je le comprends très bien, et ces gens ne doivent quand même pas prétendre que tous deviennent des pratiquants du parler en langue. Je crois qu'une personne qui essaie de suivre le Christ, qui le prie chaque jour, et qui fait du bien autour de soi, de tout son cœur, je crois que c'est une personne qui est chrétienne à 100%, bien sûr, et sans qu'elle fasse recours au parler en langue. Je crois que c'est une question de bon sens. Comme je vous dis, la plupart des saints n'ont jamais parlé en langue.
Merci, mon père, pour toutes ces précisions et bonne soirée à Rome. Nous avons Eddy Isango en ligne. Eddy, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Vous parlez en langue?
Oh, bien sûr, oui.
Dites-nous, bien sûr, oui. Dites-nous comment vous y arrivez et ce que vous ressentez quand vous parlez en langue. Allô?
Des ressentis ou de. C'est pas question des sentiments, c'est plutôt basé sur la foi. Donc le principe ou la base, c'est la foi. Et...
Allô? Allô? Nous allons essayer de rappeler Eddy Isango. Nous avons été déconnectés. Nous avons Junior en ligne. Bonsoir. Allô?
Bonsoir, Eric.
Je vous écoute.
Allô, bonsoir, Eric. Je vous tiens. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà. Je vous écoute.
Je vous suis bien.
Je vous écoute, Junior.
Voilà. Parler en langue, selon mes constats, il s'agit de la divinité ou bien des sentiments personnels de l'homme. Parce que pourquoi la divinité? Là, il y a Dieu et parfois il y a Satan. Comme il y a des traces dans l'Antiquité, ou pas dans l'Antiquité, mais pendant que les apôtres de Jésus ont parlé en langue. Bon, peut-être on ne sait pas qui c'est cette langue-là qui a interprété. Mais un constat chez moi, parce que moi j'ai pris dans une église prophétique, l'église évangélique des sacrificateurs. Dans notre église, je vois souvent quand le prophète parle, soit disant en langue, il y a toujours un protocole qui le suit, qui la suit. Et quand elle la suit, essaie de nous dire ce que les prophètes voulaient parler. Et ce n'est pas totalement en langue. Parfois, c'est en langue, donc celui qui est là, parfois tu es dans une région où on parle les Tchiluba, il vient d'une région où on parle les Tchiluba, et puis il fait la prophétie dans une région où on parle les Swahili. Vous voyez que là, il faut qu'il y ait une interprétation. Et je vois qu'après cela, les protocoles nous interprètent ce que le prophète a dit. Mais parler en langue comme ça, au hasard, moi, je n'ai jamais vécu ça et je ne comprends pas. Parfois, je vois cela où je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent parler. Parce que parler en langue, c'est collaborer avec une autre personne qui parle encore cette langue.
Donc, merci Junior. Merci Junior pour votre contribution. Nous avons de nouveau Eddy Isango en ligne. Eddy, vous êtes là?
Oui, je suis là, Eric.
Voilà, vous dites que ça relève de la foi.
Lui, ça relève de la foi et ceux qui croient dans la Bible et au don du Saint-Esprit croient que le Saint-Esprit, comme le disait celui qui m'a précédé, donne parmi les dons qui sont dans la Bible de parler en langue. Et quand on parle en langue, c'est communiquer directement à Dieu et c'est induit par le Saint-Esprit que l'on parle. Ce n'est pas pour les hommes auxquels on dit, c'est pas pour Dieu. Donc, comme la Bible dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13, je peux commencer par 12, vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner, de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Et c'est lui qui m'a précédé à parler d'interprétation. Donc l'interprétation est aussi un autre don. Mais si nous continuons ici, dans le même chapitre, c'est en fait on parle d'abord à Dieu. Et on peut le normalement, on doit le faire seul avec Dieu. Mais quand on est en communauté, il est recommandé dans la Bible qu'il y ait quelqu'un pour interpréter parce que quand Dieu parle, il faut que ceux qui ne comprennent pas ces langages puissent...
Et ça vous a pris combien de temps pour parvenir à parler en langue?
Non, ce n'est même pas question d'étudier. On n'étudie pas ça. Ça relève de la foi. Et quand j'ai dit, ça relève du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est... moi, je dirais une façade de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste d'une certaine manière. Donc,
est-ce que vous pouvez parler, par exemple, tout de suite en langue?
Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que je parle à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, quand on parle, c'est le Saint-Esprit qui prie en moi. C'est le Saint-Esprit qui prie en moi. Donc, ça serait du théâtre. Je ne fais pas une mise en scène. Pour ceux qui ne comprennent pas les phénomènes, ils pensent que quelqu'un, par sa propre volonté, peut charabier.
Charabia ou les démons sataniques, n'est-ce pas?
Non, ce n'est même pas que chasser les démons, c'est différent. Chasser les démons, c'est prendre autorité sur les démons et leur donner des ordres, et les langages, les Saint-Esprit.
Merci Eddy pour votre contribution. Nous avons d'autres auditeurs en ligne. Steve Boko, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur le journaliste.
Vous parlez en langue aussi?
Non, je ne parle pas en langue, mais c'est mon pasteur qui parle en langue.
Ah oui?
Oui, bon, pour lui, sincèrement, c'est lorsque le Saint-Esprit l'explique qu'il essaie de parler en langue, je ne veux pas dire qu'il essaie, il parle en langue pour pouvoir chasser les démons, je peux dire. Parce que moi, je l'ai remarqué, il ne parle en langue. C'est-à-dire, c'est pas à chaque prière qu'il parle en langue. Et lorsqu'il est bien inspiré et qu'il sait qu'il doit chasser les démons, qu'il essaie de commencer à parler en langue, malgré que je ne comprends. Mais si je sais qu'il est inspiré par le Saint-Esprit, il commence à implorer ses langues pour pouvoir les dégager, pour le faire quitter le corps. Donc je pense très bien que nos hommes de Dieu, surtout moi, mon homme de Dieu, lui, il essaie de parler en langue dans le cadre de pouvoir chasser les démons.
Merci. Merci Steve Poco pour votre contribution. Nous avons posé cette question à l'imam Omar Diène à Dakar.
Non, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Bon, parce que nous n'avons pas ce genre de pratique. Moi, je suis un musulman pratiquant. J'ai obtenu le rang d'imam. Donc, je suis un ministre du culte musulman. Mais je n'ai jamais vu cette façon de prier. Je n'ai jamais assisté à cette façon de prier parce que nous sommes des musulmans et nous faisons le rituel comme le Coran nous l'a indiqué et que le prophète Mohammed alayhi salam nous a montré comment on prie. Sur le rythme d'accomplissement de la prière, des paroles à dire, des paroles à faire et des gestes aussi qui vont l'accompagner.
Et vous priez dans quelle langue?
Nous prions en langue arabe, sur le Coran. Le Coran est dit en arabe.
Est-ce que vous arrivez de prier dans une langue inconnue et incompréhensible?
Non, nous avons toujours prié sur le Coran qu'on a appris. Et nous, c'est une langue arabe, donc c'est du rituel qu'on paye, pas dans une autre langue.
Est-ce que cette façon de prier chez certaines églises en parlant en langue, est-ce que ça vous paraît bizarre? Comment vous percevez cela?
Nous ne maîtrisons pas ces paramètres. C'est pourquoi on ne peut pas donner de jugement ou d'appréciation de cette façon de faire. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, si ça avait été pour peut-être l'Église, je sais que quelquefois il prie en latin ou en français ou en truc. Ça, c'est l'Église. J'ai assisté à des cérémonies que l'Église organise. Mais sur une autre dimension, autre que l'Église catholique, je ne maîtrise pas ce que les autres font et comment ils le font aussi.
Voilà, c'est l'imam Omar Dien qui dit que chez les musulmans, on ne parle pas en langue. Alphonse Mbouaki à Kinshasa, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous parlez en langue?
Oui, bien sûr, parce que je suis chrétien, ça date de longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de moi. Hein. Vous... relève de la foi, comme disait Edi Essam.
Voudriez-vous nous parler en langue tout de suite, là?
Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe quand ça vient spontanément comme ça, sans que je le fasse de soi-même. Je ne sais pas de moi-même, donc c'est poussé par l'esprit et je commence lors d'une prière, ça vient comme ça, sans que je sens que je force. Donc ça vient de ça relève de la foi, comme disait Sango. Donc c'est là que j'en parle, je suis en intelligence avec Dieu, je suis en communication avec Dieu. Donc vous savez, il y a des plus importants, même les églises chrétiennes, ne croient pas cela. Par exemple, il y a l'enlèvement. Il y a certaines églises,
Alphonse,
chrétiennes qui ne croient pas l'enlèvement.
Alphonse, il y a un auditeur de Kinshasa, c'est Benoît, qui disait que dans une église, quand il y a beaucoup de gens qui parlent en langue, ça attire beaucoup de fidèles. C'est vrai?
Non, ce n'est pas le cas. Il y a des langues fantaisistes dans les églises chrétiennes. Mais il y en a qui sont, il y a des langues qui viennent de Dieu. Il y en a d'autres qui initient les vedettes dans les églises chrétiennes. Ils finissent les vedettes à parler en langue. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a des vrais langues qui viennent spontanément, comme je le disais. Donc Dieu intervient, vous commencez à parler en langue et vous êtes en contact avec lui, vous êtes en communication avec lui. Et cela est passé lors de la Pentecôte, au premier siècle, lorsque les disciples de Jésus-Christ attendaient le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Les gens ont parlé en langue. Donc ce sont des points-là qui nous pousse à faire cela.
Merci, merci Alphonse. Alphonse, nous allons recevoir Deus Obrigado. Chiluba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous dites que parler en langue, c'est un phénomène naturel.
Oui, c'est un phénomène naturel et surtout biblique.
Je vous écoute.
Oui. C'est un phénomène naturel. Je prends un exemple. J'avais déjà écrit pour dire que les apôtres, les 12 apôtres avaient parlé en langue. Et ces mêmes langues, actuellement, on les utilise même dans les églises que nous avons comme actuellement en Angola. Il y a quelqu'un qui s'est dit non, comme ici on parle portugais, là-bas moi je ne parle, je connais très bien le français, je peux parler pour compliquer ces gens. Bon, mais même ailleurs, c'est comme ça que l'on utilise, mais naturellement, on doit parler en langue quand le Saint-Esprit est disponible. On parle en langue lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Les apôtres se sont remarqués lors de la Pentecôte qu'ils avaient les flammes de paix et chacun d'eux parlait en langue. Lorsqu'on doit parler en langue, on doit être à côté de quelqu'un qui interprète ce que je parle. Parce que je parle d'une manière spirituelle, ce n'est pas d'une manière physique pour que je puisse savoir qu'est-ce que je suis en train de parler, non. Donc je parle tout en étant avec, en se communiquant avec Dieu.
Merci, Deus, on a bien compris. Eddy, vous êtes encore là?
Oui, je suis là.
Oui, vous partagez le même point de vue?
Je partage le même point de vue, mais je voudrais dire que même dans la Bible, le parler en langue a toujours été sujet à controverse. L'apôtre Paul prévenait et il demandait aux gens de l'ordre, par exemple. Il y a deux dons qui faisaient l'objet de ces... Il y a la prophétie et le parler en langue qui relèvent directement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui inspire les gens à ce sujet... Il demandait que l'on parle en langue beaucoup plus, mais en privé. Mais quand on est dans l'église, il faudrait, normalement, c'est ce que Dieu fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a un don d'interprétation pour interpréter. Parce que quand on parle la langue, c'est pour à glorifier, on dit les merveilles de Dieu, mais on s'édifie et on édifie les autres qui entendent.
Merci Eddy Isango. Dans Actes 2, chapitre 1, verset 12, on dit « Les apôtres commencèrent à annoncer l'évangile à la foule à Jérusalem, et ce qu'ils disaient pouvait être compris par des personnes qui parlaient toutes sortes de langues différentes. » Et c'est la fin de ce dialogue des religieux. Merci à vous tous qui avez participé. Je vous retrouve à la fois prochaine. Eric Manelakiza vous souhaite une excellente soirée chez vous.